Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe pour Invitation au Bonheur. Comme chaque lundi, je reçois un invité différent et cette semaine, mon invité est...
Dolly Chouairi.
Et oui, Dolly Chouairi, vous la connaissez bien. Elle trône dans sa librairie à des gens qui lisent et même des gens qui ne lisent pas, parce qu'on voit aussi entrer tout le monde dans la librairie et des gens qui découvrent la lecture et des gens qui enrichissent leur lecture. Alors avec Dolly, on se connaît depuis très longtemps, mais peut-être on en parlera un peu plus tard. J'aimerais savoir, qui es-tu en fait, Dolly? Comment pourrais-tu te définir autrement que comme la libraire de Sartrouville?
Alors, tout d'abord, je te remercie beaucoup, Jean-Marie, pour ton invitation. Je suis très touchée de participer à cette émission qui est vraiment super et qui est déjà dans son ancienne forme, tes conseils qu'on écoutait et qui ont donné lieu à un livre, d'ailleurs, Bonheur chronique à la librairie, et de mettre du baume au cœur. Et celle-ci permet d'entendre aussi... des personnes sur ce qui leur font du bien, ce qui leur font plaisir, et voilà, ça c'est vraiment chouette, donc ça me touche beaucoup d'être là. Qui je suis? Enfin, tu vois mon introduction pour essayer de gagner du temps avant de répondre.
Oui, je vois, j'attends.
Alors, je sais pas trop, je dirais que je suis une grande rêveuse et optimiste malgré tout, et passionnée, et quelqu'un qui a envie de poursuivre toujours un objectif et qui est heureuse dans ça, en imaginant tous les projets qu'on peut mettre en place avec les gens qui nous sont proches. Voilà. La librairie en fait partie, donc bon, tu m'as dit de ne pas dire que je suis libraire, c'est vrai que j'ai eu plein d'autres vies avant, donc voilà, je ne suis pas définie par ça, mais le fait d'avoir envie tout le temps de se réinventer comme ça, ça je pense que s'il y a une chose que je peux donner sur moi, ça serait ça.
En fait, quand je demande de se définir autrement que par son métier, c'est parce que je pense que ça peut être très restrictif, en fait, et que je pense que le métier, c'est une partie souvent importante de notre vie. Pour certains, leur métier, c'est une source de revenus, c'est une activité. Pour d'autres, c'est une passion. Pour d'autres, c'est une raison d'être. Et je pense que, du coup, ça peut être aussi très intéressant de parler de son métier, pas forcément... simple pour tout le monde, en fait, de partager cela. C'est pour ça que j'aime parler de la personne, comme aussi, je ne demande pas aussi quel est l'état civil, enfin, pour moi, peu importe, hein. Ce qui est important aussi, c'est qui nous sommes, cela nous fait pas, le fait qu'on soit marié ou pas, qu'on soit homme ou femme, qu'on ait des enfants ou pas, je pense que c'est pas ça qui nous définit. Ce qui nous définit, en effet, c'est peut-être justement nos valeurs, c'est notre vision de la vie, c'est aussi notre raison de nous lever chaque matin, comme on dit dans l'Ikigai. Et quelquefois, c'est le métier, quelquefois, c'est aussi la famille. Donc, ça, on peut y arriver aussi, parce que tout ça, ce sont aussi des sources de bonheur. Mais voilà la raison pour laquelle je t'avais présenté comme étant la libraire, parce qu'en effet, à Sartrouville, beaucoup te connaissent comme ça aujourd'hui. Mais c'est quand même une image récente, puisque pendant longtemps, voilà, pour moi, tu étais une des responsables de relations avec le public du théâtre de Sartrouville, par exemple, voilà, et ensuite, voilà, une membre du groupement des entreprises. Donc, on a toutes et tous. Tu vois, je le dis au féminin d'abord, c'est rigolo. On a toutes et tous de multiples facettes et de multiples rôles, et c'est pas péjoratif. On tient des rôles différents, et heureusement qu'on tient des rôles différents dans nos vies, parce qu'on a justement plusieurs facettes et qu'on peut pas être toujours le même ou la même personne avec tout le monde, même si au fond l'être est exactement le même. Voilà. Donc on peut être authentique en ayant plusieurs rôles. C'est ça ce que je voulais dire. Merci. Moi je rebondis sur quand tu dis optimiste malgré tout.
Ah oui, le malgré tout, c'est vrai que je l'ai quand même dit. Pourquoi malgré tout? Parce que je suis quelqu'un qui doute beaucoup. J'oppose pas le doute à l'optimisme. Je pense que je doute parce que je crois justement que je peux toujours qu'on peut toujours rêver grand, rêver mieux et trouver de belles choses. Donc oui, c'est vrai que j'ai dit ce malgré tout qui est bizarre. C'était plus par rapport à un état d'esprit, à un cheminement intérieur que par rapport au monde qui nous entoure. Hein. Oui,
D'accord,
il y a aussi.
c'est ce que je voulais en fait te challenger un peu dessus. Alors ouais, je fais un peu le coach là, bien sûr.
Bah tu peux,
Ou c'est la
tu es mon
matière,
coach.
ou c'est la matière en effet qui est intéressante, c'est de travailler ensemble avec ce que tu apportes. Et là, tu m'as apporté ce mot, donc c'est intéressant et ça permet de creuser pour savoir est-ce que c'est un malgré tout parce que nous vivons dans un monde qui peut être extrêmement anxiogène. Et donc, être optimiste aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile qu'il y a 3 mois, par exemple. Mais ça peut être aussi, malgré tout, parce que c'est aussi ce fameux cheminement intérieur où en effet, de temps en temps, on a besoin aussi de se mettre au défi de nos propres pensées, de nos propres projections. Et peut-être que le doute, c'est quelque chose qui peut nous faire aussi réfléchir et de mettre quelquefois un peu de réalisme aussi dans notre optimisme pour éviter qu'il soit béat. Voilà. C'est souvent comme ça que les pessimistes parlent des optimistes. Mais non, ce n'est pas ça. Alors aujourd'hui, ton bonheur, il ressemble à quoi aujourd'hui?
Alors, j'avais déjà envie presque de faire un début de réponse avec ce que tu disais à l'instant, optimiste malgré tu disais c'est un monde un peu anxiogène dans lequel on est, etc. Mais je crois que c'est peut-être parce que mon bonheur, il est aussi très tangible et très vivant dans toutes les petites choses. J'aime pas le mot petit parce que c'est pas petit, au contraire, c'est très grand. Mais il se construit avec plein plein de versants, quoi, de côtés. C'est comme une sorte de pierre, tu sais, avec toutes ses
De
couleurs,
multiples
multiples
facettes ou
facettes,
un
comme on dit
tableau
tout à l'heure.
pointilliste, peut-être
Ou
plein de
un,
petits points, voilà,
exactement, voilà, qui s'assemblent.
voilà.
Et parfois, il peut en manquer des points, et c'est pas grave parce que le tableau d'ensemble se vit quand même comme quelque chose de beau. Donc voilà, mon bonheur, il est constitué de toutes ces choses-là, et ce qui fait que je suis quand même globalement, généralement, la plupart du temps, heureuse, je pense.
Une femme heureuse.
Ça commence fort.
Alors, une femme heureuse, est-ce que cette conscience, finalement, du bonheur qui est fait de toutes ces millions de petites choses, et une fois de plus, c'est pas péjoratif, ce petit, hein, est-ce qu'il a changé, est-ce qu'il a évolué avec le temps?
Oui, il a profondément changé avec le temps. Comment dire, pendant longtemps, même si, et encore un peu d'être parfois de temps en temps, j'avais l'impression que je ne pouvais conscientiser le bonheur, entre guillemets, qu'après coup, qu'en y repensant après, pas dans le moment présent. Seulement en l'espérant dans le futur ou en y repensant dans le passé. Et depuis quelques années, peut-être depuis que je suis maman, quand même, il est beaucoup plus présent dans la vie de tous les jours par ses multiples et innombrables aspects. On joue à ce jeu avec mes enfants, on en a peut-être parlé avec toi quand tu me coachais, voilà, de se dire tous les jours les moments qui nous ont rendus heureux. Et ça peut être des grands moments de bonheur comme des choses qui pourraient sembler plus anodines, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Mon chat est passé près de moi en ronronnant quand je suis rentrée à la maison. Voilà, ça m'a rendue heureuse. C'était un moment de joie. Ou bien ma petite fille s'est jetée à mon cou pour me dire au revoir ce matin. C'est un grand moment de bonheur. Voilà. Et quand on regarde la journée comme ça, il est quasi impossible de ne pas trouver au moins un moment qui nous a rendu
Alors tu fais référence à cette
heureux.
approche qui a
Mais
été popularisée par Florence Servan-Schreiber, qui sont les fameux 3 kiffs par
oui.
jour. Hein. Donc c'est un minimum, hein, je précise qu'on peut en trouver des milliers, mais en tout cas que si on prend cette habitude chaque jour, à un moment donné, c'est bien de se faire aussi des rituels. Hein. On peut le faire le soir, si on est seul, on le fait le soir avant le coucher, et c'est une très bonne habitude, parce que ça permet en effet de poser sur sa journée un regard positif en disant mais qu'est-ce qui s'est passé de bon aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé de surprenant qui m'a fait du bien? Quels ont été les moments de plaisir, de bonheur, mais aussi des moments de grâce, qu'on ne sait pas toujours définir. Et voilà, le sourire d'un inconnu, un rayon de soleil qui est tombé juste sur un mot qui m'a tout d'un coup parlé. Voilà, un livre qui est tombé, j'ai retrouvé dedans un petit mot que j'avais écrit il y a quelques années. Ces petits moments tout simples que Philippe Delerme avait noté dans son joli livre. Voilà, c'est
La
la
première
première
gorgée
gorgée
de
de
bière.
bière et autres plaisirs. Et donc tout ça, c'est tous ces moments-là, si on prend le temps simplement de les noter, donc déjà d'en prendre conscience et puis simplement de les noter, Mais déjà, ça fait du bien. Parce qu'on s'endort en douceur, avec des choses très positives en tête. J'ai des clients, du coup, qui le faisaient en famille, autour de la table le soir, et elle me disait, cette dame, que bah, ça avait donné à ses dîners en famille, comme ça, avec les enfants, une tonalité toujours un peu plus joyeuse, parce que chacun parlait de ses petits moments agréables qu'il avait vécu dans la journée. Donc j'aime bien ce côté de rituel hein, qui nous aide en effet à rythmer notre vie. On a besoin d'être surpris, mais on a besoin de se raccrocher à des repères aussi, qui sont bien déterminés. Donc c'est vrai que ça fait du bien ces kiffs par jour là.
Oui, hein? Ça fait du bien. Et puis ça, comme tu le disais, le faire en famille, ça crée un rituel et ça renvoie aussi quelque chose de positif à la personne en face de nous, parce que parfois ces moments heureux, ils sont nés grâce à une personne qui est autour de la table aussi, et c'est une façon de lui dire merci. Donc,
C'est un partage, et donc tu es une maman, et tu sais ce que c'est, tu sais qu'en fin de compte, avec les enfants, tout est éducation en fait, et que trouver finalement, on a besoin d'être un peu des coachs aussi de nos enfants, c'est-à-dire de leur faire prendre conscience aussi de ce qui se passe là, de ce qui se dit là, de ce qui s'échange là tout de suite. Et ces trois kiffs par jour ou ce rapport à l'enfance aussi, moi me fait penser à l'instant présent, c'est-à-dire en fait, je pense qu'on est aussi plus heureux, c'est peut-être ça que tu disais aussi à ta façon sur l'évolution de la prise de conscience du bonheur. C'est qu'en effet, plus on est attentif à ce qui se passe là, tout de suite, maintenant, dans l'instant présent, et plus on peut jouir de notre vie, en fait, et de tout ce qu'elle offre. Voilà. Quand on vit dans le passé, en effet, ben, voilà, le présent n'existe pas, et le temps passe sans même qu'on s'en rende compte, et puis on va certainement sublimer le passé, et par opposition, on va considérer que le présent n'est pas terrible. Mais si on vit toujours aussi projeté dans le futur, eh bien, on oublie de vivre, en fait, à l'instant présent. Et peut-être que c'est ça aussi, le fait de prendre conscience.
Peut-être. En tout cas, avant d'avoir atteint cet état d'esprit-là, la pensée de me dire que je... Comment dire? Quand je me disais je suis heureuse ou je viens dans le monde de bonheur, ça me faisait presque peur, tu vois. Parce que je me disais je suis en train de vivre quelque chose, c'est presque... Ça me portait malheur de me dire ça, que ça, j'ai jamais été là. Dans mes conceptions, alors que finalement, oui, il est rempli de toutes ces belles choses, et aider à savourer le moment présent, c'est précieux, et c'est ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Donc,
voilà, donc tes enfants nous ramènent à ça, hein. nos petits professeurs, comme je les appelle. Alors j'en ai vu des enfants justement à la librairie, au premier étage de la librairie, hein, parce que Dolly m'a donné cette chance de pouvoir animer mes ateliers du bonheur dans la librairie des gens qui lisent, et voilà, c'était toujours très doux, très bon et très drôle aussi de partager ce que c'était que le bonheur aussi, comment on peut apprendre à être heureux très 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 tôt avec ses enfants. Donc merci, je profite de l'occasion pour te remercier de m'avoir accueilli. Justement, quand tu étais une petite fille, quand tu avais voilà l'âge de tes enfants aujourd'hui, qu'est-ce qui te rendait heureuse à l'époque? Quel était ton univers déjà?
Ce qui me rendait heureuse, c'était lire.
Non, c'est pas vrai.
Depuis toujours, non, c'est vrai. Je pourrais réfléchir plus avant. Je pense que je te donnerais la même réponse. J'aimais être dans ma bulle, petite. J'aimais m'enfermer dans un livre et plonger dans un livre, rester dans mon livre, etc. Plus que tout. C'était vraiment mon moment de magie, quoi, d'évasion au monde. Et ça, c'est resté, évidemment, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Je trouve que la lecture est un vecteur de bonheur incroyable parce qu'elle apporte en soi, ce que tu découvres dans un livre, ce que peut t'apprendre un livre, ce que peut te faire ressentir un livre, mais aussi parce que ça t'offre aussi un moment pour toi, un moment vraiment d'évasion. Quand tu es dans ton livre, tu es seul avec ton livre, et en même temps, tu es avec des dizaines et des dizaines d'autres personnes, à commencer par la personne qui a écrit ce livre avec laquelle tu as une conversation, et avec toutes les personnes à qui tu vas en parler ensuite, avec qui tu vas échanger. Je trouve que le livre, c'est l'accessoire, l'outil, le moyen, je ne sais pas comment l'appeler, de bonheur par excellence. C'est pas tout à fait ta question, mais voilà.
Bah, si, bien sûr. Alors, j'avoue être un peu surpris, alors pas pour ton intérêt pour la lecture depuis très tôt, mais... parce que je sais que c'est une famille avec des filles, avec du monde autour de toi, et que peut-être c'était les jeux à l'époque qui étaient voilà, l'imagination à travers les jeux, à travers les relations avec dans la fratrie. Et tu me parles d'une petite fille qui avait plutôt envie de voyager verticalement à travers les livres et de vivre son monde à elle.
Oui, j'avais vraiment besoin de ce monde intérieur. Oui, on est trois sœurs. Ma plus jeune sœur, on a beaucoup d'écart, donc on a peu joué ensemble petite. Et les deux filles, le livre, même si dans le moment de lecture, nous étions chacune à part, nous était source de jeu, puisqu'ensuite on faisait des spectacles à partir des textes qu'on avait lus, on les jouait ensemble, on les apprenait par cœur, on se les récitait avant de dormir. Enfin, c'était vraiment quelque chose, un personnage, un être à part entière parmi nous, ouais, qui nous emportait.
Donc le livre servait de prétexte de jeu aussi finalement.
Il servait
Ça
aussi de
servait de
prétexte de jeu,
source
oui, il
et de
était.
ressource pour le jeu.
Exactement.
Bien. Écoute, il est temps maintenant d'écouter aussi de la musique. Alors tu as choisi un titre. Je vais d'abord laisser écouter aux auditeurs et puis on en parlera par la suite. Hein. Quelle chanson, Dolly, alors?
Tu veux que ce soit moi qui le dise?
Oui.
Nous venons d'écouter Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper.
Alors, Cyndi Lauper, ça nous ramène à quelques années en arrière, tout ça. Est-ce qu'elle a une histoire, cette chanson?
Je ne sais pas si elle a une... Alors, elle a une histoire pour moi qui n'est
Oui.
pas du tout l'histoire de la chanson. Je crois qu'une des premières fois que je l'ai entendue et où j'ai senti à quel point elle me faisait du bien, c'était pendant un spectacle, mon ancienne vie professionnelle, au Théâtre de Sartrouville, un spectacle mis en scène par le remarquable Simon Delattre, un spectacle qui s'appelle Bou, qui est un spectacle jeunesse vraiment très émouvant, assez bouleversant, et dans lequel le personnage principal, incarné par Simon Delattre, à un moment donné, met cette chanson et voilà, accomplit un acte qui sera très important pour le spectacle par la suite. Et cette chanson, elle a résonné comme ça à ce moment-là pour moi. Et depuis, quand je l'écoute, ça me renvoie à ce souvenir. Et en même temps, ça exprime beaucoup de joie, je trouve, de lâcher prise. Girls just wanna have fun, en fait. On a juste envie de s'amuser, d'être
légère. Il y a des moments où on a juste envie d'avoir du plaisir, c'est tout. Ça. On n'a pas envie de réfléchir,
exactement.
On n'a pas envie de se prendre la tête. On a juste envie de laisser les pieds danser, de chanter même si on chante faux, et on n'en a rien à faire du regard des autres, c'est ça?
Tout à fait.
Et là, tout d'un coup, on a 7 ans, voilà.
Et on a 7 ans. Ou on en a 37, et on court dans la forêt le matin avec la chanson dans les oreilles, et là, on se sent particulièrement bien.
Donc voilà, je trouve que j'aime bien toujours faire ce rapport à l'enfance, parce que l'enfance, c'est un mystère qu'on découvre chaque jour, et en même temps, ça nous rappelle notre enfance. D'être avec des enfants, de les observer, de leur apporter, de transmettre quelque chose. Et on sent en effet qu'il y a une telle puissance, il y a une telle énergie, il y a une telle liberté dans l'enfance que ça nous fait du bien de nous reconnecter tant en temps à notre enfant intérieur. Et oui, et puis il y a des musiques qui donnent juste envie de danser, juste envie de prendre du plaisir, c'est tout. Il n'y a pas de réflexion. Il faudrait peut-être pas d'ailleurs essayer de comprendre les paroles quelquefois, parce que c'est ça nous touche pas. Et c'est peut-être l'avantage aussi des chansons chantées dans d'autres langues quand c'est pas notre langue maternelle, hein, tout simplement. Voilà, c'est qu'on tient compte que de l'énergie et de la musique, quoi.
Exactement.
Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Super. Alors dis-moi, là je pose plein de questions. Ah, j'ai envie de me reposer un petit peu.
Allez.
Et toi, si tu souhaitais me poser une question, ça serait laquelle?
Alors, quelle question j'ai envie de te poser, Jean-Marie? J'ai envie de te poser plein de questions. Mais j'en ai quand même une qui me titille, au vu de ton parcours, de ce que tu apportes aux autres, de tous les projets que tu as mis en place, de tout le bonheur que tu as distillé autour de toi. Reste-t-il un rêve que tu n'as pas encore réalisé? Quelque chose que tu auras envie de faire, un grand projet que t'aimerais, vers lequel tu aimerais aller?
Bonne question. Bonne question. Alors, la première réponse qui me vient, c'est que je n'ai pas de grands rêves. J'ai pas de grands rêves, et donc mes rêves, je les vis et je les réalise, on veut dire, au fur et à mesure. Donc, un peu comme tu parlais du bonheur qui est fait de tous ces tout petits riens, de petits bonheurs qui, finalement, associent les uns aux autres quand on prend un peu de recul. On dit, waouh, mais c'est un beau bonheur, tout ça, finalement. Ben, j'ai envie de dire la même chose pour mes rêves aussi. Alors, il y a peut-être un rêve d'enfance que j'aurais envie de réaliser, et j'ai besoin de beaucoup de temps pour cela. Donc c'est vrai que ça va peut-être être une de mes missions, on va dire, de mes objectifs de retraite, parce que c'est quand même bientôt, dans quelques mois. Et en fait, c'est de faire une bande dessinée à partir du livre L'Atlantide.
Ah.
Voilà. Et donc c'est un très beau livre qui m'avait touché au tout début de mon adolescence. Et donc voilà, c'est Pierre Benoît. C'est un auteur français qui est un auteur un peu méconnu, je trouve, mais qui a écrit de très belles choses et beaucoup de science-fiction et beaucoup de... Et cette quête, en effet, à travers le désert, à travers l'Afrique, etc., moi, ça a nourri beaucoup de mes rêves. Ce personnage emblématique que je vois presque une femme maquillée comme un guépard, en fait. Tu vois, il y en a un juste derrière moi dans mon bureau, là. Je vois l'image, et voilà, j'avais envie d'en faire une bande dessinée. Ce sera peut-être...
C'est super, mais tu m'appelleras.
Oui, voilà, bien sûr. Alors, donc, dédicace de la bande dessinée en 2028. Bref, non, je ne sais pas, c'est peut-être ça. Voilà, si vraiment il y avait un rêve, ce serait ça. J'ai déjà pas mal voyagé, j'ai envie de voyager, de découvrir des mondes, des gens, etc. Mais pour moi, ce n'est pas des rêves, c'est juste des envies qui, si elles se réalisent, tant mieux. Si elles ne se réalisent pas, tant pis. ce sera d'autres envies viendront les remplacer. Après, c'est pas du rêve parce que j'ai commencé déjà à le réaliser, c'est l'écriture en fait. Et voilà, encore merci Radio Axe de m'avoir permis d'animer cette émission qui a donné un livre et qui m'a donné ce goût de ce rendez-vous avec moi-même de l'écriture finalement. Le moment où on se pose, le moment où on se parle à soi en sachant que ça va aussi peut-être parler à d'autres, où on pose des mots, il faut trouver le juste mot, la juste phrase, le rythme et en plus l'illustration qui va avec toutes ces images. Et ça, j'ai découvert, mais vraiment un bonheur intense avec ça. Et donc, j'ai envie de continuer. Ce n'est pas du rêve, c'est la réalité. Mmh. C'est la réalité.
C'est une belle réalité que tu as créée et que tu as...
Oui, alors voilà, si on continue, voilà, pour terminer, bah, tu sais, mes ateliers du bonheur pour les enfants, j'ai aussi envie d'en laisser quelque chose et d'en faire un livre illustré qui parlera aussi bien aux enfants qu'aux parents. Voilà. Et aux thérapeutes et aux accompagnateurs, enfin, tous ceux qui auprès d'eux, voilà, ont envie de les faire vivre une vie plus belle, comme dirait mon fils. Voilà. Waouh, mais donc, belle question, merci pour la question. Mais dis donc, et toi, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose?
C'est difficile, ça. Il y a des gens qui savent répondre à cette question.
Oui, ouais. En général, ils l'ont travaillé un petit peu avant.
Est-ce qu'il y a une question que j'ai envie que tu me poses? Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne dit pas que parfois, quand on parle des autres, on parle de soi? J'aimerais que tu me poses la question que je viens de te poser.
Alors, Dolly, est-ce que justement, lorsqu'on parle des autres, est-ce qu'on ne parle pas un peu de soi, finalement?
Forcément, il y a des projections comme ça qui se font. C'est comme quand on lit un livre, en fait, finalement. J'ai l'impression que quand on est touché par une histoire ou une écriture, c'est parce qu'elle nous touche à un endroit qui est très précis dans notre histoire à nous, 10 ans avant, 10 ans après. Ce ne sera pas la même chose. Oui. C'était quoi ta question?
Est-ce que lorsqu'on parle des autres, on ne parle pas un peu de soi? Ou de soi, même pas un peu.
Et pourtant, on essaye d'être attentif. Ah, mais quand quelqu'un vient me demander un livre pour une personne qui voudrait offrir un cadeau, etc., et que je demande à cette personne de me parler de l'individu à qui il a envie de faire ce cadeau, très souvent, en réponse, oui, on me dit... j'ai telle relation avec cette personne, ou on a fait telle chose ensemble, etc. Il y a vraiment un lien en parlant des autres qui nous renvoie à nos propres attentes, nos propres fêlures, etc. Et moi-même, quand je réponds, j'ai l'impression que je fais la même chose. Est-ce que c'est l'empathie? Est-ce que c'est l'attention portée aux autres? Est-ce que c'est le besoin de toujours trouver un sens par rapport à soi? Je ne sais pas. Mais peut-être, en posant cette question de tout à l'heure, quel était le rêve que tu avais envie de réaliser, je me disais, et moi, alors quel rêve j'ai envie de réaliser? Et du coup, j'avais envie de t'entendre là-dessus pour le confronter à mon propre rêve intérieur. Je ne sais pas, je n'ai pas analysé ça plus avant.
Mais écoute, oui, moi, ce que ça m'évoque quand tu dis ça, c'est que nous sommes notre première référence. Donc, chaque fois qu'on parle des autres... C'est avec ces repères-là qui sont les nôtres, en fait, qui sont nos références. Donc si j'admire quelqu'un, peut-être que c'est parce que chez cette personne, il y a quelque chose que j'aimerais aussi faire, quelque chose que j'aimerais tellement être comme elle pour pouvoir être capable d'eux, etc. Si je déteste quelqu'un, c'est peut-être parce que cette personne-là, à un moment-là, va me montrer quelque chose qui ne me plaît pas en moi, en fait, et qui fait écho avec une partie de moi dont je ne suis pas forcément très très fier. Et c'est un rappel, quelque part. Et donc voilà, c'est peut-être comme ça que je l'analyserai. Alors, je ne fais pas une analyse psychologique. Moi, je ne suis pas psychologue, hein, tu le sais très bien. Même si j'utilise beaucoup des outils des psychologues, mais pour parler du comment et du devenir de mes clients. Mais en tout cas, pour moi, ça me parle. Et ça me parle notamment, justement, quand nous sommes confrontés à des difficultés, lorsque nous sommes en relation avec des personnes avec qui il est difficile d'entrer en relation, ou qui peuvent paraître agressives, etc., c'est vraiment quelque chose aussi, moi, qui m'a beaucoup aidé, c'est de dire, mais là, la personne, elle est en train de me parler de moi, mais en fait, elle me parle d'elle. Et ça me blinde, quelque part, ça me protège. En disant, en gros, ben voilà, mais ça ne doit pas me toucher, puisqu'elle exprime quelque chose qui lui appartient, mais qui ne m'appartient pas. D'accord ? C'est son point de vue, mais je ne suis pas obligé de le partager. elle est peut-être dans le jugement, mais moi, je n'ai pas envie d'être dans le jugement. Et donc, simplement, le fait d'être plutôt comme un miroir que comme une éponge va nous permettre aussi de mieux vivre des situations qui sont plus difficiles. C'est ça que ça m'évoque aussi.
Mais ça, c'est quelque chose que j'ai, sur lequel j'ai beaucoup réfléchi quand on était en coaching avec toi.
Oui.
La colère de quelqu'un qui peut exprimer une blessure qui lui est propre et qui n'était pas du coup qui est destinée à toi dans ses paroles, mais qui n'était pas destinée à laquelle tu ne peux rien, puisqu'elle raconte quelque chose de sa propre fêlure intérieure. Et ça, c'est quelque chose de très important sur lequel j'essaye tout le temps j'essaie d'y faire attention, et j'essaie d'y sensibiliser mes enfants aussi dans leur rapport aux autres, et que ça permet d'apaiser aussi nos relations avec les autres, d'être moins en colère.
Eh bien, on va passer maintenant à la séquence conte,
avec plaisir. Hein,
parce qu'on a bien avancé dans le temps. Et donc, ce conte, c'est un beau conte libanais que j'ai choisi, qui illustre l'importance du chemin de vie et aussi l'importance de savoir profiter de l'instant présent, sans procrastiner de façon excessive, ce qui peut nous arriver à tous, et qu'on pourrait intituler peut-être, Rendez-vous avec le destin, peut-être. Un jeune homme pauvre décide un jour d'aller consulter un vieux sage au sommet d'une montagne, et de lui demander des conseils pour changer son destin. En chemin, il rencontre un derviche qui l'accompagne parce que son chemin va dans le même sens. À la sortie de la ville, il passe près d'un grand arbre dont le tronc creux laisse couler du miel. « Retourne en ville, dit le derviche, et ramène 2 jarres. Ce miel pourra te rapporter 10 dinars d'or. Mais crois-tu que j'ai le temps ? Je ne t'ai pas dit que je cherche l'homme qui m'aidera à changer mon destin. Allons, allons, pressons le pas. » Les 2 hommes continuent leur chemin et s'arrêtent dans une forêt pour permettre à leurs ânes de se reposer. 1 heure plus tard, un homme arrivant en chantant et conduisant devant lui un âne chargé de 2 jarres pleines de miel. Le derviche regarde le jeune homme en souriant. « Ce miel ne provient peut-être pas du même arbre, et puis j'aurais pu me faire piquer par les abeilles. » dit le jeune homme en enfourchant sa monture. Dans une rivière, à quelques lieues de galop, ils aperçoivent un gros poisson qui s'étrangle et qui essaye en vain d'attraper une herbe au bord de la rivière. « Donne-lui l'herbe, il semble en avoir besoin, » dit le derviche. « Oh, je n'ai pas le temps de m'arrêter, te dis-je. Je cherche à changer mon destin. » 1 heure plus tard, un homme à cheval arrive à leur hauteur. « Ah, aujourd'hui, je suis le plus heureux des hommes. Je viens de donner une herbe à un poisson qui s'étranglait. Et vous n'allez pas me croire. Le poisson a fini par cracher dans ma main une perle rare qui s'était coincée dans son gosier. Cette perle vaut une fortune. Je sais de quoi je parle, car je suis joaillier. » Le jeune homme garde le silence, mais pousse son âne pour aller encore plus vite. Au milieu de l'après-midi, il passe près d'un rocher qu'une colonie de fourmis essaye en vain de déplacer. Si on s'arrêtait pour voir un peu comment elles vont s'y prendre. « Oh, derviche, tu me fatigues à la fin. Je vais arriver au sommet de la montagne avant la nuit. » Ils n'étaient pas encore parvenus au pied de la montagne qu'ils entendent 2 bergers qui arrivent en devisant gaiement. Ils ont aidé des fourmis à déplacer un rocher qui cachait un coffre plein de pièces d'or. Ce coffre empêchait les fourmis d'agrandir leur royaume souterrain. Le derviche regarda le jeune homme. « À vouloir te presser pour arriver, tu as fini par n'arriver nulle part. 3 fois, tu as laissé échapper ta chance parce que tu n'avais pas le temps de t'arrêter pour regarder de plus près. Mais de quoi te mêles-tu? Et puis pourquoi n'as-tu pas fait toi-même ce que tu me demandes au lieu de me donner des leçons ?»« Je ne pouvais pas le faire moi-même. Je ne pouvais qu'attirer ton attention parce que c'est moi qui suis ton destin. » Et le derviche disparu, laissant le jeune homme seul au pied de la montagne. « Dolly, un mot, une remarque sur ce conte. Est-ce que tu le connaissais?
Non, je ne le connaissais pas. J'ai peut-être entendu des variantes sur. C'est une sorte de question, comment dire, de réflexion sur à la fois l'insatisfaction, le fait de vouloir toujours aller vite, de pas prendre le temps de regarder ce qui est autour de soi et du coup de rater les choses importantes. Peut-être que j'ai le squelette de ce conte qui doit exister peut-être dans d'autres, mais celui-ci je ne le connaissais pas. Et oui, il m'évoque ça, ce personnage qui est tellement pressé par ce qu'il croit vouloir qu'il passe à côté de sa vie finalement et de ce qui pourrait le transformer sa vie. Ça pourrait être quelqu'un d'aujourd'hui chez nous, à côté de nous. Ça pourrait être
Oui,
moi.
ça pourrait être nous. Oui, ça pourrait être nous. Moi, ça me parle de la chance aussi, dans le sens où on dit que la chance est un talent. Et je pense que le talent, c'est l'ouverture, c'est le fait d'être disponible, le fait de voir ce qu'il y a. Et voilà, de vouloir aller trop vite, de se projeter vers le futur. On ne prend pas le temps de savourer ce qui se passe autour de nous et de voir ce qu'il y a réellement. Ça parle aussi de donner avant de recevoir, d'aider d'abord. Et puis peut-être d'être récompensé, mais peut-être pas, mais c'est pas grave, parce que donner, c'est déjà une récompense. Voilà, ça m'évoque énormément de choses, donc je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dans ce petit conte. Eh bien voilà, nous arrivons à la fin de cette émission, déjà, j'ai envie de dire, parce que le temps est passé très vite. Et donc, c'était Jean-Marie Marcos avec Dolly Chouhery pour Invitation au bonheur. Donc je vais maintenant, comme d'habitude, partager un titre de ma propre playlist du bonheur, mais auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h sur Radio Axe. Et d'ici là, ensemble, soyez
Heureux.
heureux.
Start again.